Je sais pas s'il faut que j'allume. Non, ça marche là. Ça fonctionne. Ok, oui, j'entends que ça fonctionne. J'ai prévu aujourd'hui de vous parler de la sainteté. C'est un thème qui m'a beaucoup interpellée pendant le confinement. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de l'approfondir un peu parce que c'est un thème, selon différentes églises, que soit on ne va pas en parler du tout, on va parler plutôt de sanctification, ou alors au contraire, on va être une église où, voilà, où presque, ça va être presque un culte, une dévotion à la sainteté. Alors voilà, j'ai un peu approfondi cela. Donc par exemple, dans l'église catholique, c'est un thème qui va être très très courant. On va dire qu'il n'y a quasiment pas une messe où on ne va pas citer un saint. On ne va pas citer la vie d'un saint, hein, puisque chaque jour a ses saints. Donc quand la messe du jour va y avoir le dimanche, il y a un saint, on va très souvent citer la vie des saints, non pas, enfin, évidemment comme un exemple à suivre, hein, même plutôt comme un exemple à vivre. Hein. Le saint, ce n'est pas celui qui va dire, du moins dans l'Église catholique, va dire « Admire-moi, regarde ma sainteté, qu'est-ce que je suis devenu saint hein. ?» Ça va plutôt être « Ben tu vois, j'étais quelqu'un comme toi, et puis... » Ben, moi j'ai réussi, alors que j'étais aussi simple, aussi petit, aussi voilà, que toi. Et moi j'ai réussi à, on va dire, monter vers la sainteté. Enfin, il faut bien utiliser des mots. Alors pour eux, c'est vraiment une source d'inspiration. Ce ne sera pas une source de vénération, mais ce sera une source d'inspiration. La vie des saints, c'est la communion des saints, c'est quelque chose de tangible pour eux. Pour eux, c'est vraiment... les saints sont présents d'une certaine manière. Alors, ce n'est pas totalement anti-biblique, bien qu'on pourrait se dire, nous on regarde ça un peu de façon éloignée, ce n'est pas anti-biblique parce que nous voyons dans l'évangile de Matthieu que lors de la mort de Jésus, on a ce texte qu'on ne lit pas souvent, « Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints ressuscitèrent. Sortis des tombeaux après la résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un très grand nombre de gens. » Alors moi je me suis dit, ces saints qui... ressuscitent, sortent des tombeaux, entrent dans Jérusalem, donc ils marchent, hein, ce n'est pas des fantômes qui se mettent à voler dans un grand drap blanc, hein, et ils apparaissent un grand nombre de gens, mais ils apparaissent, alors on ne nous en dit pas plus, hein, mais ils apparaissent pour quoi ? Leur faire peur ben non, je pense plutôt un petit peu pour leur parler des merveilles de Dieu, est-ce qu'ils parlent ? On ne sait pas, mais bon, tout ce qu'on nous dit en tout cas, c'est que c'est possible que des saints ressuscitent, entrent dans une ville et apparaissent à des gens. Donc, voilà. Alors, ça, c'est pour l'Église catholique. L'Église orthodoxe, elle se reconnaît vraiment comme vivant dans le culte de la sainteté. Hein. C'est un thème familier à la conscience orthodoxe. C'est développé dans une multitude de sermons, dans plein de livres de piété. Les miracles, les icônes, les reliques, la communion des saints, pour eux, ça fait vraiment partie d'une théophanie. Théophanie, donc, c'est vraiment Dieu est présent pour eux. Ils ont conscience d'être le corps du Christ, un corps du Christ dans lequel les morts et les vivants seraient d'une certaine manière présents. Pour eux, la vie des saints, c'est une fonction pédagogique et liturgique dans l'Église terrestre. Alors évidemment, nous, Église évangélique, nous on regarde ça d'un œil circonspect, c'est pas pour pas dire suspect. Chez nous, il n'y a pas tellement de saints. Bon, nous, on n'a même pas dans l'Évangile ni Saint-Luc, Saint-Marc, Saint-Matthieu, Saint-Jean, on n'a même pas ça. Justement, j'avais une amie catholique qui est venue passer 2 jours cet été à la maison. Et du coup, ben, comme j'étais déjà en train de penser, à réfléchir à ça, on a parlé de la sainteté, comment elle, dans son église, tout ça. Et je disais, mais tu te rends compte, nous, tu sais, nous, vraiment, c'est quelque chose dont on ne parle pas tellement. Hein. D'ailleurs, on n'a même pas Saint-Luc, Saint-Matthieu, Saint-Marc. Elle me dit, mais vous dites quoi alors? Comme si vraiment, on dit Marc, Luc, Jean, hein, tout simplement, voilà. On ne va pas tellement parler de sainteté. D'ailleurs, je voudrais citer une parole de Daniel, hein, tu me permettras, Daniel, qui est déjà sur le premier rang. C'est, il y a 15 jours, tu as prié et puis tu as dit, continue en nous ton œuvre de sanctification. Et évidemment, moi, je préparais ce thème de la sainteté, donc ça m'a fait titre et je me suis dit, mais oui, on n'arriverait pas, nous, à dire, fais de nous des saints. Hein, fais-nous entrer en sainteté, quoi. On va parler d'œuvre de sanctification, on a un peu du mal avec ce vocabulaire. Hein. Alors il y a quand même un seul homme, il n'est pas dans la Bible, qui échappe en tout cas à nous protestants, hein, à qui on octroie quand même son titre de saint. Est-ce que vous avez une petite idée d'un quelqu'un dont on parle quand même chez nous protestants, un certain saint, est-ce que, duquel Calvin était très 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 influencé par ce saint ? Non, parce qu'on ne va pas dire Saint François d'Assise, on va parler de François d'Assise, comme tu viens de le dire. Saint Augustin, hein, voilà. Saint Augustin, mais non, ici dans l'Église protestante, on va parler de Saint Augustin. Bon, voilà, un titre. Mais bon, c'est vrai que ce vocabulaire, voilà, implique quand même des choses. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des dérives de piété populaire, hein, où pendant tout un temps, évidemment, il y a eu des dérives, voilà, hein, de piété, où on parlait plus des saints, on priait plus des saints dans certaines églises que de Dieu. Alors, peut-être que nous, on a pris le penchant inverse. Hein. Bon, en tout cas, c'est notre théologie. Nous saurons tout ça à la fin des temps. Nous serons peut-être très surpris, les autres aussi, très certainement, d'où est la justesse et la vérité, on ne sait pas. En tout cas, en bons protestants que nous sommes, nous allons nous référer à la Bible, évidemment. Alors, j'ai trouvé des choses étonnantes en piochant un petit peu dans la sainteté, notamment dans la version seconde. Au psaume 102, je me disais, mais est-ce que la sainteté, c'est un lieu ? Il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Ésaïe 57, j'habite dans la sainteté. Et Michée 1, alors je trouve cette phrase extraordinaire. Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Je trouve vraiment ce verset tellement, tellement beau. Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Est-ce que la sainteté serait un lieu ? Est-ce que la sainteté serait la propriété d'une chose ? Vous savez, comme l'eau peut être liquide, solide ou gazeuse, est-ce que la sainteté serait une propriété physique qui fait que les choses changeraient de propriété ? Hein, on lit dans Exode 29, « Ce lieu sera sanctifié par ma gloire. » Il change de propriété. Ce lieu, il n'était pas saint, et puis voilà, tout à coup, par la gloire de Dieu, un objet change. Il devient saint. C'est vraiment la gloire de Dieu qui permet qu'il devienne saint. Alors, c'est plus que profane et sacré. Profane et sacré, c'est vraiment un des aspects. C'est un aspect, mais ce ne sera pas la sainteté. Et alors, il y a une chose qui est étonnante aussi dans Exode 40, c'est que tu sanctifieras l'autel. C'est-à-dire que l'homme est capable de sanctifier un lieu. Alors, s'ensuit toute une série de prescriptions, hein, et puis l'autel sera saint. Donc voilà, l'homme a cette capacité, comme la gloire de Dieu, il a cette capacité de faire qu'un lieu devienne saint. Ou dans le sens inverse, mais on y reviendra plus tard. Alors, est-ce un lieu, est-ce une propriété, est-ce enfin une qualification, un qualificatif pour les humains ? Lévitique 20, vous serez saint comme je suis saint. Deux Rois 4, cet homme est un saint homme de Dieu. Voilà son qualificatif, c'est un saint homme de Dieu. À vous tous appelés à être saints, nous dit Romains 1. Élus pour que nous soyons saints devant lui, Éphésiens 1 au chapitre 4. Alors voilà un petit peu ce qu'on voyait un peu dans la Bible. Mais nous, alors je ne vais pas questionner les uns après les autres. Nous, vous, si vous deviez définir quelle est la sainteté, qu'est-ce que ça veut dire pour vous quelqu'un qui est saint ? Ben, on va s'apercevoir que souvent on définirait ça par la négation. Un saint, c'est quelqu'un qui ne commet pas de péché, qui ne va pas dire de mauvaises paroles, qui n'est pas envieux, qui n'est pas jaloux. Hein? Comme s'il y avait deux médailles, une médaille et puis l'envers. Alors vous êtes saint, et puis s'il n'y a pas de péché, ben voilà, il y a là, il n'y a pas de péché, et puis d'autre côté, vous êtes saint. Hein? Mais un jour, les péchés disparaîtront. Un jour, nous irons au ciel, là, il y a la résurrection, les péchés disparaîtront. Mais la sainteté de Dieu demeurera toujours. Ce n'est pas parce que les péchés vont disparaître que la sainteté va se... Voilà. La sainteté de Dieu demeurera toujours. Et ainsi, on peut s'apercevoir qu'il y a une sainteté de Dieu puis une sainteté des hommes. Une sainteté de Dieu qui serait inexprimable, insondable, informulable, inenfermable dans des mots. Une sainteté absolument unique, aucunement comparable à aucune sainteté, qu'elle soit angélique, encore moins humaine. Une sainteté qui, si elle nous était révélée, nous tomberions notre face contre terre. On lit ça dans Daniel qui va tomber comme en léthargie quand il va voir cette sainteté de Dieu qui vient vers lui. Ou comme dans l'île de Patmos, Jean, voyant Jésus dans sa gloire, tombe comme mort à ses pieds. Et ceux qui vont percevoir la sainteté de Dieu vont vouloir que dans l'Apocalypse, que les rochers et les montagnes tombent sur eux. Et on voyait ça aussi, le peuple d'Israël qui ne voulait pas s'approcher de la montagne sainte de Dieu, qui disait plutôt à Moïse, vas-y toi, vas-y, parce que nous, elle a quelque chose d'effrayant en même temps. Et aussi pour les yeux spirituels, elle a quelque chose d'une beauté incomparable. On lit dans Exode 15, qui est comme toi parmi les dieux, ô éternel, qui est comme toi magnifique en sainteté. On devrait certainement méditer aussi sur cette image qu'on lit dans Ésaïe 6. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur son trône élevé, les pans de sa robe emplissaient le temple, des séraphins se couvraient la face et les pieds, criaient « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel des armées. Ils voient l'Éternel qui est dans son temple, dont la robe vraiment emplit ce temple, et ils sont saisis par cette sainteté. Et je pense qu'on devrait vraiment méditer, on a besoin d'une révélation de la sainteté de Dieu. Parce qu'en fait, notre curseur concernant la sainteté, il est très, très, très bas. Très bas. Et puis, ce n'est pas la société qui va nous faire monter ce curseur. Si je prends un exemple, on dit souvent que le blanc, il est associé à la sainteté. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, nous aurons des vêtements blancs. Les prêtres portent souvent des vêtements blancs. La mariée, pureté, mais aussi. Et aussi, on voit Jésus, lors de la transfiguration, il nous est dit que ses vêtements étaient éblouissants. Ils étaient blancs plus qu'aucune lessive sur terre ne pourrait faire ce blanc-là. Un blanc qui est vraiment tellement extraordinaire que, voilà, qui révèle un peu la sainteté de Jésus dans ce monde de transfiguration. Alors si on prend le blanc comme sainteté, on pourrait dire que le noir, ce serait un peu l'envers. D'abord, il y a beaucoup de gens qui disent « c'est pas la peine de prier pour moi, mon âme est tellement noire, c'est tellement empli de sainteté, de péché, pardon. Mon âme est tellement noire. » Et si je prenais comme le noir de ce pupitre, et que je vienne y mettre ne serait-ce qu'un peu quelque chose d'un peu blanc, qui est un peu blanc, il est vraiment loin d'être beau, mais il est un peu blanc, on pourrait se dire que si on cherchait quelque chose, on disait à quelqu'un, prends le torchon blanc, voilà, mais si le blanc à côté du noir, alors on pourrait se dire qu'il est un peu blanc. Et pour des gens qui auraient une âme noire, je lisais un article l'autre jour, on disait où il était écrit que plus on monte dans la hiérarchie de la société, dans la hiérarchie de la politique, des nations, des entreprises et des nations, plus la corruption est tellement incroyable, la perversion est incroyable qu'on n'imagine même pas. Alors imaginons quelqu'un qui tout à coup réalise à quel point son âme est noire. Il pourrait se dire, mais moi si mon âme était ne serait-ce que comme ça, ne serait-ce que comme ça, mais ce serait tellement bien pour moi. Si je pouvais monter un peu, quitter la noirceur de mon âme pour aller vers un peu de blancheur. Et j'ai une élève l'année dernière, je peux en parler parce qu'elle n'était pas dans le collège de Kelly, qui vient me voir avec sa copine. On est à la fin de la chorale. Alors moi, on est toujours à la fin de l'heure, en train de ranger tous mes bazars. Alors, elle arrive. Mais madame, je vais vous dire quelque chose. Oui, bon. Alors, la copine, mais si, vas-y. Ah, mais non, j'ose pas. Mais oui, mais non. Alors, ça dure comme ça quelques minutes. Alors, bon, oui. Madame, il faut que je vous dise, je suis transgenre. Alors là, d'un coup, moi, je n'avais plus rien à ranger. Je lui dis, quoi, Mélissa ? Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Je suis transgenre. Ben oui, madame, je suis transgenre. Ça fait 3 ans que j'ai ça dans ma tête depuis toujours. Mais là, ça y est, c'est sûr, là, je veux être un garçon. C'est sûr, je le sens, c'est ça que je veux être. Oh, je dis, mais écoute, mais t'es jeune, t'as 14 ans. Qu'est-ce que t'as ça dans la tête ? Et puis bon, ça sonne. Je dis, écoute, on en reparlera. Puis bon, confinement. Puis bon, on n'en a pas reparlé parce que bon, c'est pas quelque chose qu'on aborde comme ça. Mais quand j'y repensais, cette gamine, je me dis, mais quelle est la société qui peut lui mettre des idées pareilles dans la tête à 14 ans ? C'est pas possible. En plus, vous savez, parfois, vous avez des enfants. Vous savez qu'il y a eu des problèmes dans la famille, d'attouchement, de séparation. On voit que ces gamins, ils sont perdus. Ils sont complètement perdus. Alors on peut se dire, bon bah oui, il y a tellement... Mais elle, c'est vraiment une gamine, mais toujours sourire jusque la première de sa classe, hyper intelligente, toujours partante pour tout. Mais on se dit, mais quelle est cette société dévoyée qui peut mettre de telles idées ? Et quand on voit, je disais tout à l'heure que l'homme peut sanctifier la nature, quand on voit l'état de notre nature, mais vraiment, voilà, l'homme a vraiment brisé cette sanctification qu'il pourrait avoir sur cette planète. Alors, ben oui, voilà, on peut effectivement se contenter d'une noirceur ou d'un blanc pour essayer de monter un peu le curseur. Alors voilà, j'ai pris quelques... se dire qu'on montait un peu le curseur au niveau de la blancheur. Voilà, évidemment, là, on va monter un peu et puis voilà, on pourrait avoir un trait blanc. Nous diriger comme ça vers la sainteté de Dieu, regarder vers la sainteté, monter notre curseur, avoir une révélation de cette sainteté de Dieu. Alors, évidemment, si on veut regarder vers la sainteté de Dieu, ce n'est pas pour faire une espèce de comparaison. Alors là, il y a les noirs. Là, il y a... Alors, toi, tu serais plutôt là, pour les autres. Et puis toi... Non, évidemment, non. Ce ne serait pas pour... Mais ce serait vraiment pour nous vraiment, que nos yeux se dirigent vraiment vers la sainteté de Dieu, qu'on ait une révélation de cette sainteté de Dieu. Alors, vous allez me dire, d'accord, la sainteté de Dieu, bon, ben, voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire? Quand on a dit ça, quand on a dit, voilà, nous on serait plutôt là, et quand on a dit que la sainteté de Dieu, voilà, c'est cette blancheur parfaite, hein, il n'y a pas de tâche, il n'y a pas de péché, il n'y a rien, c'est cette blancheur parfaite. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que, du coup, on va avoir des exigences écrasantes, très angoissantes? On va devoir obéir à des règles, pas faire pas ceci, faire pas cela. Comme dira Paul, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, et le mal que je fais, ben, c'est celui-là que je fais. Est-ce qu'on va être... on va se dire, ben non, c'est le triomphe de quelques-uns, c'est une élite. Qu'est-ce que vous voulez, c'est une élite, hein? N'est pas saint qui veut, hein? C'est réservé à quelques-uns. Hein? C'est des personnalités d'exception. Ben, nous, on va se contenter de faire ce qu'on peut. Hein? Comment on va obéir à cette exigence de Dieu dans Lévitique 20? Soyez saints comme je suis saint. C'est comme ça que Dieu nous dit. Soyez saints comme je suis saint. Alors, ben, évidemment, on a... Jésus, par son incarnation, hein, lui qui est descendu jusque dans notre chair, va nous permettre évidemment que cette sainteté puisse nous être accessible. Hein. Il nous permet, parce que c'est lui qui vient chercher ce fatras de noir de notre âme, c'est lui qui vient le chercher, le déplacer, le prendre, le réduire à la croix et le détruire totalement. C'est lui qui nous permet de nous détacher de ça. Et on va commencer un chemin. Alors évidemment, la sainteté, ce n'est pas un lieu. Ce n'est pas une qualification, ce n'est pas une propriété, c'est un chemin vraiment. Un chemin mais dans lequel Jésus vient nous prendre comme ça. Et lui, il a pris tout ça. Ça y est, on en est. Voilà, il a pris tout ça. Et vas-y, maintenant, avance sur ce chemin de sainteté. Il est ouvert grâce à la résurrection. Alors, je vais citer juste quatre points, quatre chemins, on pourrait dire. Deux qui vont être plus dans le faire et deux qui pourraient être dans l'être. Être et faire, toujours cette tension entre est-ce que c'est Dieu qui va faire en moi ou est-ce que moi je dois faire quelque chose. Ben, le premier, ça pourrait être déjà dans la contemplation et l'adoration, justement recevoir cette révélation de la sainteté être transformé aussi, être attiré par cette sainteté, hein. Avoir aussi une plus grande intimité grâce à l'adoration, à la contemplation, avoir une plus grande intimité. On a besoin de voir cette révélation de la sainteté de Dieu. Vous savez, on dit que les plus grands saints, eux, rien même qu'une toute petite pensée de rien, alors pour eux, c'est vraiment... Oh là 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 là. Parce que c'est comme une robe de mariée, vous savez, la robe toute blanche là, mais il n'y aurait rien là qu'un tout petit fil noir, mais on ne verrait que ça, tout de suite, nos yeux. Et c'est ça un peu les grands saints, hein, les grands saints... Et vraiment, ils ont une telle idée de la sainteté que rien qu'un petit truc vraiment fait tâche, comme on peut dire. C'est un peu ça. Le deuxième point, c'est pour être la recherche de la volonté de Dieu sur soi, pour soi. Le saint, ce n'est pas celui qui n'a plus de volonté, mais celui qui découvre qu'il y a une volonté, que la source plus profonde que sa volonté, c'est la volonté de Dieu. Sur lui, une volonté qui donne la vie, une donne la vie en abondance. Chaque personne, chaque histoire étant unique, chaque chemin de sainteté sera aussi unique. C'est ça qui est extraordinaire. Hein? C'est qu'il y a un chemin de sainteté, mais il est unique pour chacun. C'est ça, c'est vraiment merveilleux. Et puis, deux qui seront plus dans le faire de notre part, là. L'imitation du Christ, entrer dans la perfection de l'amour. Comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, les sentiments revêtés des sentiments de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de longanimité. Christ s'est livré afin de sanctifier l'Église. Le don de sa vie, un amour gratuit. Il y a à peu près une quarantaine d'années, on était encore assez jeunes, on vivait dans le Nord, on avait des voisins qui avaient mon âge d'aujourd'hui, donc moi je trouvais qu'ils étaient plutôt vieux, et ils avaient un fils qui a une leucémie. Et qui a été une leucémie foudroyante, et qui, ce fils avait donc, il laissait une veuve et 5 orphelins. Et on a beaucoup prié, on parlait, ils étaient catholiques, ils étaient profondément croyants, catholiques, et je leur disais que je priais pour leur fils, etc. Et puis après, il est venu m'annoncer la mort de son fils, et il m'a dit, vous savez, il est mort comme un saint. Je me souviens, ça m'a beaucoup, beaucoup frappée. Je ne me suis pas dit, ou je ne vais pas poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Quelque part, je comprenais ce qu'il voulait dire. Mon fils est mort comme un saint. Je n'allais pas lui dire, ah bon, il n'a plus fait de péché sur son lit de mort? Non, c'était qu'il je comprenais qu'il avait fait le don de sa vie, enfin, qu'il était entré dans cette acceptation totale de laisser sa femme jeune, cinq orphelins, il avait accepté ce plan de Dieu sur sa vie qui était un plan tellement douloureux. Hein. Il était entré dans vraiment dans... Ouais. On n'arrive pas à expliquer, mais on comprend, on voit tout ce que ça implique, bien plus que se dire qu'on ne fait pas de péché. Comme Jésus, le don de sa vie, un don, un amour gratuit qui ne demande rien en retour. Alors, c'était Colossiens 3, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, des sentiments de miséricorde, de bonté. Et Christ s'est livré afin de sanctifier l'Église, c'est Éphésiens 5, 26. Et puis la dernière exigence sera l'exigence du combat spirituel, évidemment, parce que ben, un chemin de sainteté, évidemment, c'est un chemin d'humilité, et nous, on a toujours notre orgueil. Hein, puis dès qu'on sera un petit peu humble, hein, on se dira « Oh, qu'est-ce que je suis humble quand même !» Hop, pouf, ça y est, c'est parti. Hein, donc ben, on a tout le temps à recevoir cette sainteté de Dieu comme une révélation, et en même temps à travailler en même temps. Alors on pourrait se dire, mais Dieu nous dit « Soyez saints comme je suis saint ». Finalement, je terminais là-dessus. Mais est-ce que Dieu est un gourou ? Soyez saints comme je suis saint. Et oh les gars, montez d'un cran là un petit peu, soyez saints comme je suis saint. Hein, moi je suis quand même votre modèle. Est-ce que c'est ça que Dieu veut pour nous ? Mais non, c'est Agnès en avait un tout petit peu parlé l'autre jour quand il y avait la soirée pour Torrent de Vie. Elle disait, un chemin de sainteté, c'est un chemin de guérison. C'est que quand Dieu nous dit, soyez saints comme je suis saint, et ben, en même temps que il travaille en nous vers notre sainteté, c'est l'œuvre d'une vie, hein. C'est l'œuvre d'une vie. Hein. En même temps, il nous guérit. En même temps qu'on vient, voilà, qu'on travaille aussi notre humilité. Enfin, tout ça, c'est un aller-retour. Tout ça, c'est un chemin de guérison qui va vraiment nous, bah oui, faire de nous qu'on va guérir et nos familles et notre pays. Alors, ce chemin, cette voie n'est pas une ligne droite. Elle va comporter des arrêts, des accélérations, des tournants, des chutes, des régressions, des relèvements. Mais ne perdons pas courage, parce que le Seigneur veut nous bénir vraiment depuis son palais de sainteté. Voilà, amen. On va prier un petit instant. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu veux vraiment nous attirer à toi, non pas comme les gourous de notre monde, comme les modèles qui veulent se mettre en avant pour dire « faites comme moi » ou « suivez-moi ». Toi, c'est vraiment pour entrer dans un chemin de vie profonde, de révélation profonde de qui nous sommes vraiment face à toi. Et tu veux vraiment nous faire entrer dans ce chemin de sainteté, de guérison. Oui, pour guérir ce monde qui est malade de péché, qui a besoin de lumière, qui a besoin de d'être guéri par ta présence, par ta révélation. Et je demande vraiment ce matin, Seigneur, que tu fasses la grâce à chacun de nous, chacun de ceux qui sont présents aujourd'hui, de révéler quel est le chemin de sainteté sur lequel tu veux nous faire avancer. Révéler ta sainteté pour que nous devenions saints comme tu es saint. Amen.